Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vendredi 6 décembre, deuxième jour de grève massive dans les transports et lendemain de mobilisation inédite depuis 10 ans dans la rue. Le mouvement contre la réforme des retraites ne pouvait pas mieux commencer pour les syndicats. Cheminots, agents RATP, profs, remontés à bloc, on les entendra dans un instant. Nous serons en gare de Lyon-Pardieu pour voir comment les usagers se débrouillent ce matin. On verra quelles concessions le gouvernement est prêt à faire, sans doute transiger sur l'allongement de la durée de cotisation. On n'est pas pressé, dit Gérald Darmanin. A contrario, il y a urgence à déminer le terrain après 18 mois de concertation, nous expliquera Yaël Gauz. Quant à vous, Nicolas, c'est l'un des acteurs du conflit que vous recevrez tout à l'heure.
Oui, Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière, il est l'invité du grand entretien du 7-9. Vous pourrez dialoguer avec lui au 01 45 24 7000. Vos questions et vos réactions aussi sur les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter.
Au sommaire aussi, dernière journée du procès de Willy Bardon, accusé du viol et du meurtre d'Élodie Kulik. Condamnation lourde ou acquittement, le verdict est très ouvert. Angela Merkel à Auschwitz, aujourd'hui pour la première fois de sa vie de chancelière. Comment MeToo a changé les couples. Et puis Matisse et le cinéma, une histoire d'affinité créative. C'est une expo à Nice.
France Inter.
Grisé par la grève, emporté par la foule des manifestants partout en France, 800 000 à 1 million et demi de personnes dans les cortèges hier, les syndicats vont se revoir tout à l'heure pour programmer leurs prochaines actions, alors que la grève a été reconduite jusqu'à lundi à la RATP, jusqu'à ce soir à la SNCF, dans des AG chauffés à blanc. Nous sommes gare de Lyon, hier soir à Paris, ambiance survoltée, reportage signé Maxime Deps.
Ils sont traumatisés par le mois de décembre depuis 95. On va leur faire
une ça. En 95, je me suis battu 3 semaines pour les retraites. Et aujourd'hui, je suis prêt à repartir.
Contrôleur SNCF, Fabrice, à 52 ans, en a connu des réformes, mais alors celle-là...
Même si je perds 2000 euros, 1500, 2000 euros, je ne sais pas combien je vais perdre d'argent là, sur ce mois-ci, ça ne représente rien si cette réforme passe.
Avec un nouveau système de calcul de sa retraite sur l'ensemble de sa carrière, Fabrice craint de perdre jusqu'à 4000 euros de pension par an, de quoi justifier un mouvement long pour lequel pousse également Raphaël, machiniste à la RATP, particulièrement remonté.
Les gens ils pensent que c'est que jeudi, vendredi, il y a le week-end qui suit, ça va se calmer, mais c'est à partir de lundi que ça va commencer, tous ensemble, comme les gilets jaunes, à l'improviste, on ira le plus loin possible.
Pour la reconduction jusqu'à demain. Jusqu'à Noël,
le mot est lâché pour faire front à Macron. Richard, agent RATP, retraitable à la fin de l'année, est prêt à un dernier combat.
Noël, premier de l'an, on verra. Moi j'espère qu'il va y avoir le feu dans ce pays. Il y a un moment, il va falloir que ça pète. Quoi. Donc là, tu sais quoi ? Je crois qu'on est parti dedans.
Illimité, cheminot, agent RATP, mais aussi prof présent en solidarité, n'avait que ce mot à la bouche hier en sortant de l'AG.
Voilà, pour cet AG, gare de Lyon, suivi hier soir par Maxime Deps. Côté transport, même motif, même prévision. Un vol domestique sur 3 annulé chez Air France. 10 lignes de métro fermées à Paris comme hier. 90% des TGV et 70% des TER supprimés. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour Florence.
Vous êtes à Lyon, gare de Lapardieu. Alors Christophe, les usagers hier avaient pris leur disposition. La situation est-elle toujours aussi calme ce matin ?
Oui, comme hier, le hall de la Pardieu semble désert. Il y a 10 fois moins de monde que d'habitude, glissent les habitués. On peut même s'asseoir au café. En Rhône-Alpes-Auvergne, le trafic est très réduit. Un TER sur 15, un TGV et un Intercité sur 7. Sur les tableaux lumineux ne s'affiche qu'un seul train pour Paris, Marseille et Montpellier et 3 pour Saint-Etienne sur l'axe le plus fréquenté. Du coup, 590 cars sont affrétés. Pour Léonard, Catherine et Quentin, c'est très compliqué.
Normalement, je devais avoir mon train et jusqu'à présent, j'ai pas le train, donc on attend. Il y a des trains affichés, il y a un car qui est là, donc on attend, quoi. Je vais travailler à Mâcon, mais bon, même pour aller à Mâcon, c'est tout un problème, quoi.
Je suis venue de Mâcon, mais en voiture, parce qu'il n'y avait pas de train. Et j'ai garé ma voiture vers chez ma fille, à Lyon. Et maintenant, j'attends mon train, 6h28 pour Marseille-Saint-Charles. Il n'y a pas le quai, mais il est affiché.
Je regardais ce matin en partant s'il y avait un espoir pour les trains, il n'y en a pas. Donc là, j'attends mon bus pour aller au boulot à Bourg-en-Bresse. On fait un peu au jour le jour, on attend les nouvelles le soir pour le lendemain. On attend et on se dit qu'on va y arriver.
Au niveau des transports en commun, aucune perturbation. tous les métros, bus et tramways fonctionnent, ils desserviront bien la fête des Lumières qui continue ce soir. En gare de Lyon-Pardieu, Christophe Vincent, France Inter.
Et si beaucoup de salariés avaient posé une journée de congé hier ou travaillé de chez eux, c'est certainement moins le cas aujourd'hui. 350 km de bouchons cumulés un petit peu avant 8 heures en Ile-de-France, qui est un niveau exceptionnel par rapport à un jour habituel. Étape capitale ensuite pour la suite de ce mouvement social. La révélation en milieu de semaine prochaine des grandes lignes de la réforme des retraites. C'est Édouard Philippe qui s'en chargera et il faut s'attendre à des concessions sur la face B de la réforme, l'allongement du temps de travail envisagé très rapidement pour remettre le système à l'équilibre. Ça n'est plus la priorité, a expliqué hier soir Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics sur France 2.
Est-ce qu'on est pressé au point qu'il faut le faire dès l'année prochaine ? Bon, on voit bien que le trou des 10 milliards par an, il est à partir de 2025. Il ne faut pas casser la réforme sociale que nous voulons porter en faisant une réforme effectivement budgétaire immédiatement. Mais on dit aussi qu'il faut être responsable. Donc les Français, dans leur majorité, vont travailler un peu plus longtemps. Alors il y a des gens qui vont travailler un petit peu moins longtemps. On dit qu'il y a plein de femmes notamment, qui aujourd'hui travaillent jusqu'à 67 ans, qui vont partir à 64 ans. On en discute justement de savoir quel est cet âge pivot qu'on mettra en place. Et donc notre proposition, c'est pas de baisser les pensions, c'est pas d'augmenter les cotisations, mais c'est de travailler plus longtemps, puisqu'on vit plus longtemps.
Alors, travailler plus longtemps, mais pas tout de suite, est-ce de nature à calmer l'inquiétude de tous ceux qui ont manifesté hier, entre ceux qui ne veulent pas voir disparaître leurs régimes spéciaux et ceux qui craignent de perdre une partie de leur pension? Bonjour Yaël Gauze.
Bonjour Florence.
On sent comme une accélération au sommet de l'État, c'est l'heure de parler, c'est l'heure de rassurer.
Oui, mais pour être audible, mieux vaut laisser passer l'orage et le week-end. C'est ça la ligne de conduite au sein de l'exécutif en ce moment. Maintenant, le gouvernement connaît la hauteur du mur, il va donc ajuster l'architecture de la réforme. Et quand on interpelle les ministres et les conseillers en leur disant « Vous êtes sûr que mardi ou mercredi, ça fait pas trop tard pour réagir ?» La même réponse revient « On n'est pas dans l'agenda des grévistes, mais dans celui des syndicats réformistes. » Tiens, tiens, coucou la CFDT, coucou Laurent Berger, premier syndicat de France qui ne manifestait pas hier, sauf dans sa version cheminot. Ferme sur le principe de la retraite par points, mais souple dans les concessions, l'exécutif mise sur l'intelligence du dialogue social lundi et mardi pour sortir des postures. Problème, pendant qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe accordent leur violon systémique et paramétrique, le temps passe et le risque grandit de voir la contestation sortir du seul cadre des retraites. Extrême vigilance, Blanquer parle à ses profs, Castaner écrit à ses policiers, Matignon traite la FNSEA, mais mardi prochain, malgré le plan hôpital, les internes entrent en grève. Qu'un million de Français se mobilisent contre un texte qui n'est même pas écrit en dit long sur l'état de défiance, constate un responsable de la majorité, l'état politique du pays. Permet-il encore de réussir cette réforme ? Institutionnellement, oui, mais dans l'opinion, c'est l'inconnu des prochains jours.
Yaël Gauze, merci. Le gouvernement redoutait des violences dans les manifestations. Il y en a eu à Paris, pour les plus spectaculaires, où 70 personnes étaient en garde à vue hier soir. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin, au deuxième jour de ce mouvement contre la réforme des retraites. Plusieurs dizaines de policiers et de CRS menacés par courrier à leur domicile, menaces contre leur famille, signées d'un collectif anti-policier. Pour chaque citoyen blessé les week-ends, ce sera un membre de la famille des forces de l'ordre qui subira les mêmes préjudices et sans remords. Voilà ce que l'on dit, ce qu'on lit dans ces lettres qui ont provoqué une grande émotion des syndicats de policiers. Une enquête est en cours, a expliqué juste avant 8h le directeur général de la police nationale sur France Inter.
Il est 8h09, Florence, l'heure des réquisitions et des plaidoiries de la défense avant le verdict attendu ce soir au procès Kulik.
Élodie Kulik, jeune femme violée et tuée une nuit de janvier 2002 dans le box des accusés Willy Bardon qui nie en bloc. Non, ça n'était pas sa voix qu'on entendait sur la bande-son de l'appel déchirant de la victime passé aux pompiers ce soir-là. Et de fait, pas de preuves formelles pour la défense. D'où ce verdict très ouvert. Corinne Audouin, Willy Bardon peut être lourdement condamné, comme il peut être acquitté.
Au terme du procès, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Élodie Kulik. Entre son appel aux pompiers à minuit 20 et l'heure de sa mort, estimée à 2h du matin. Un faisceau de charges pèse contre Willy Bardon, son amitié avec Grégory Viard, dont l'ADN était sur les lieux du crime. Sa voix, que certains reconnaissent sur l'appel aux pompiers, et aussi son comportement avec les femmes. Corinne Herman, l'avocate du père d'Élodie.
Cet homme n'aime pas les femmes. Cet homme n'aime que ce qu'elles peuvent lui apporter pour son bénéfice personnel et sa jouissance. Il les maltraite, il leur fait peur. Ce comportement est une preuve en soi parce que cette vision qu'il a des femmes, on le retrouve sur la scène de crime, c'est-à-dire qu'elle est bafouée. Elle subit des actes barbares qui correspondent tout à fait à sa vision de la femme et à la façon dont il la chosifie.
Mais cela peut-il suffire à envoyer un homme pour de très longues années en prison ? Marc Bailly, l'avocat de Willy Bardon.
Nous n'avons pas, et nous le répétons, d'éléments matériels de preuve s'agissant de la présence de M. Bardon sur les lieux du crime. Oui, nous allons plaider l'acquittement parce que nous avons la conviction de l'innocence de M. Bardon et nous allons aussi expliquer aux jurés ce que c'est qu'une preuve en droit pénal et devant une cour d'assises. Ce ne sont pas des rumeurs.
Tout se jouera dans la réponse à cette question posée aux jurés. Avez-vous une intime conviction ? Amiens, Corinne Audouin, France Inter.
À l'étranger, les défenseurs du climat ont rendez-vous à Madrid. Des milliers de manifestants attendus à l'occasion de la COP25, Greta Thunberg en tête. Elle ne s'est jamais rendue à Auschwitz depuis 15 ans qu'elle est chancelière allemande. Angela Merkel ira aujourd'hui. Elle prononcera un discours sur cette terre polonaise, symbole de l'extermination des juifs par les nazis, au moment où l'Allemagne vit une résurgence de l'antisémitisme et des violences d'extrême droite. Envoyé spécial de France Inter en Pologne, Ludovic Piétenu.
Le nombre d'actes antisémites a atteint un chiffre record l'an dernier en Allemagne. À ces statistiques souvent sous-évaluées, plusieurs chercheurs ajoutent qu'une parole de haine s'est libérée dans le pays. Une digue a sauté. Ce n'est donc pas sans lien si Angela Merkel a choisi ce geste fort, cette visite chargée en symbole, en répondant à l'invitation de la fondation chargée depuis 10 ans de protéger Auschwitz-Birkenau, son directeur Wojciech Soczewica. Je suis convaincu qu'une visite politique du plus haut niveau dans ce lieu joue un rôle très important. Des gens comme des chefs d'État ou de gouvernement sont des modèles à suivre. Ils sont regardés, écoutés. Et les mots peuvent émouvoir les gens. Je suis sûr que les mots peuvent être magnifiés par un endroit comme celui-ci. Et si nous voulons changer ces comportements sociaux et politiques qui sont très inquiétants en ce moment, alors une telle visite est essentielle pour rappeler ce qui s'est passé ici. Ce directeur de la fondation Auschwitz-Birkenau insiste sur l'élément le plus important à ses yeux, dans lequel tous les États touchés par cette résurgence de l'antisémitisme, comme la France ou l'Allemagne, devraient investir. L'éducation, en inculquant aux plus jeunes ce qu'a été l'Holocauste. Auschwitz, Ludovic Piétenu, France Inter.
Angela Merkel effectuera un don de 60 millions d'euros pour la conservation du site d'Auschwitz. Les forces de sécurité iraniennes pourraient avoir tué plus d'un millier de personnes depuis novembre et le début des manifestations contre la hausse du prix de l'essence. Ce sont les États-Unis qui accusent. Le plus haut représentant américain pour l'Iran parle d'au moins une dizaine d'enfants parmi les victimes. Bien sûr, il y a eu les récits d'agressions sexuelles, les plaintes. La secousse MeToo, née de l'affaire Weinstein il y a 2 ans, a libéré la parole, expression consacrée désormais. Mais ce vaste mouvement a-t-il eu des conséquences au-delà de ce qui tombe sous le coup de la loi ? A-t-il changé la vie des femmes, la vie des couples ? Question posée ce matin par Géraldine Allot. Voici son reportage.
Fanny a 35 ans, elle habite à Paris, elle est cadre dans une entreprise de nettoyage. Avant MeToo, elle n'osait pas forcément répondre aux hommes qui lui faisaient des réflexions lourdes et sexistes dans la rue.
Ça faisait partie du lot, quoi, et c'était plus une sorte de fatalité.
Depuis MeToo, elle leur répond systématiquement.
J'hésite plus, moi, maintenant, à m'arrêter dans la rue et à dire à un homme qui m'a fait une réflexion, à lui demander de répéter. Généralement, bien évidemment, il ne répète pas.
MeToo a aussi chamboulé la vie quotidienne de Fanny et ses relations avec son compagnon. La question de la répartition des tâches ménagères n'est plus tabou.
Sur un mois, on a compté, minute par minute, le temps qu'on passait aux tâches ménagères, aux courses, à la vaisselle. Et il se trouve qu'en fait, j'en fais 2 fois plus. C'est-à-dire que sur un mois, il avait fait 5h30 et moi, j'avais fait 11h40.
Stéphane est le compagnon de Fanny.
Bonjour.
Nous l'avons rencontré séparément. Sur la répartition des tâches domestiques, est-ce qu'il y a une évolution ou pas ?
Alors, très clairement, ma conviction est que j'en faisais plus que ma compagne. Bon, les chiffres ont montré que c'était l'inverse. Et alors après, on parle d'un sujet de... Vous avez un terme, je crois, un peu spécifique. Pression morale ou quelque chose de...
Charge mentale.
Charge mentale. Ça, c'est quelque chose qu'en revanche, j'achète, entre guillemets, beaucoup moins. Je crois que c'est un sujet qui est beaucoup lié à la façon dont on traite les choses, plutôt que réellement à la façon dont qui s'occupe de quoi.
Pas sûr qu'avec MeToo, on évite les disputes. En tout cas, les sujets de débat dans le couple ne manquent pas.
MeToo, une révolution au quotidien. Point d'interrogation, reportage de Géraldine Allot en longueur ce dimanche dans l'émission Interception. Quelle bonne idée du musée Matisse de Nice qui nous fait découvrir le peintre et sculpteur sous un prisme qu'on ne connaissait pas, le prisme du cinéma, car Henri Matisse en était fou, figurez-vous. Et comme en miroir, la nouvelle vague s'est inspirée de son œuvre. C'est donc une expo croisée des toiles et des films, vue par Isabelle Pasquier.
Matisse débarque à Nice en 1917, en même temps que le cinéma, et il passe beaucoup de temps dans les salles. La Sultane de l'amour tournait dans les studios de la Victorine n'est sans doute pas étrangère à sa fascination pour les odalisques. Et il recrute même certains de ses modèles parmi les figurantes des films de la Victorine. Mais il s'interroge, comment peindre avec l'arrivée du cinéma? Étonnant, il cadre comme avec une caméra et il crée des séries graphiques. Claudine Gramont, directrice du musée Matisse.
Matisse va se référer au cinéma, comparer son œuvre à, par exemple, une cinématographie de suite de vision. Donc il y a beaucoup de dessins qui sont traités d'une même figure, par exemple en série, et qui sont accrochés de manière sérielle dans son atelier. Donc il dit, voilà, c'est pour produire une impression cinématographique.
Mais au-delà du mouvement, Matisse cherche avant tout à capter la durée, les métamorphoses de la vie, et il fascine la nouvelle vague par ses formes et son art de l'improvisation. Godard d'ailleurs est en extase devant la blouse roumaine.
On voit Matisse, on dit c'est des formes, puis finalement on s'aperçoit que c'est une pensée et un sentiment. Plus on la regarde, plus on s'intéresse à ce qu'elle représente d'humain.
Romain raccroche un Matisse dans la chambre de Pauline à la plage. Et dans les parapluies de Cherbourg, Jacques Demy veut trouver des accords de couleurs, comme dans une toile de Matisse.
Cinématisse, c'est le nom de cette exposition, on dirait une émission de France Inter, au musée Matisse de Nice, jusqu'au 5 janvier prochain.
Merci Florence Paracuelos.